Franchement, les coups mortels sont manifestement un acharnement, une répétition de coups, des choses absolument épouvantables, mais qui laissent à penser que se joue quelque chose d'extrêmement particulier, où la personne visée est quelque chose à qui l'on en veut directement, et donc pas quelque chose de fortuit. Enfin, il y a un ensemble d'éléments qui laissent penser que ce sont forcément des proches.
Bonsoir. 14 ans que les parents de Gaël Fossé attendent une réponse à une question qui a naufragé leur vie et continue à les ronger. Qui a tué leur fille Gaël Fossé un soir d'avril 2007 criblé de 66 coups de couteau à son domicile de Saint-Germain-la-Campagne en Normandie? Pourquoi s'est-on acharné sur cette jeune femme de 22 ans qui avait la vie devant elle? Les indices laissés sur la scène de crime n'ont pour l'instant pas permis de remonter jusqu'à l'assassin. Des suspects ont été interrogés dans cette affaire. L'un d'eux a même été arrêté, mis en examen et incarcéré pendant plusieurs mois, mais cette piste s'est avérée trop fragile pour être réellement concluante. On sait avec certitude que Gaëlle a été tuée par quelqu'un qu'elle connaissait et à qui elle a ouvert la porte. Une personne figurant dans son entourage, mais aucune information digne de ce nom n'a conduit à cet individu. Seul un témoignage pourrait aujourd'hui relancer l'affaire Gaëlle Fossé. Affaire qui sera lundi soir à 21h05 au menu de la nouvelle émission de M6 consacrée au cold case. L'émission Appel à témoins, l'occasion. Espérons-le que quelqu'un se manifeste. Il n'est jamais trop tard en matière criminelle pour qu'un témoin raconte ce qu'il a vu ou entendu.
20h-21h, Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime.
Ce soir donc, dans l'heure du crime, l'assassinat de Gaëlle Fossé, une jeune femme qui, en cette journée de printemps 2007, ne répond plus au téléphone et ne se manifeste pas, ce qui n'est pas du tout dans ses habitudes. Vendredi 27 avril 2007, Jean-Paul et Sylvie Fossé, un couple de pâtissiers installés à Orbec, petite commune du Calvados, attendent patiemment leur fille, Gaëlle. Il est prévu qu'elle passe à 18h à la maison pour aider son frère aîné, Jean-Charles, à rédiger une lettre de motivation. À 22 ans, la jeune femme a quitté le cocon familial depuis 3 ans. Elle vit avec son petit ami, Steven. Ils habitent une maison à Saint-Germain-la-Campagne, un village à 5 km seulement d'Orbec. Le temps s'écoule et pas de nouvelles de Gaëlle. Son téléphone ne répond pas. Steven, le fiancé, qui depuis le début de la semaine est en déplacement professionnel très loin de la Normandie à Saint-Étienne, est également sans nouvelles. Il a essayé 10 fois de joindre Gaëlle sans succès. Sylvie Fossé contacte la famille, les amis, mais personne n'a vu Gaëlle. Les heures passent et l'inquiétude des parents grandit. Ils pensent évidemment à un accident. Aux alentours de 21h, Jean-Paul Fossé décide de se rendre à Saint-Germain-la-Campagne. Il arrive devant la maison et est immédiatement rassuré. La voiture de sa fille est là. Il y a même de la lumière dans sa chambre. Le père aperçoit alors Johan, un pompier volontaire, ami de Steven, le fiancé de Gaëlle. Les deux hommes frappent à la porte. Ils entendent le chien de la maison aboyer, mais Gaëlle, elle, ne répond pas. Jean-Paul Fossé a le double des clés, il ouvre. Jean-Paul Fossé allume la lumière au rez-de-chaussée. Il constate que le chien du couple, un Rottweiler baptisé Rambo, a été enfermé dans un cagibi. Il se dirige alors vers le salon. La jeune femme est allongée sur le sol. Le corps est en partie dénudé. Il y a du sang. Gaëlle a été poignardée. L'autopsie dira qu'elle a reçu pas moins de 66 coups de couteau. Les 4 premiers ont été portés dans le dos alors que la victime ne voyait pas son agresseur. Elle a été attaquée à un moment où elle ne s'y attendait pas. Un seul coup a suffi à la tuer. Malgré cela, le meurtrier s'est acharné sur la malheureuse. Un déferlement de violence, des plaies au thorax, au crâne, au visage, des blessures fatales que Jean-Paul Fossé est incapable de discerner dans la semi-pénombre lorsqu'il tente de s'approcher du corps. Johan, le pompier, lui barre la route. Il lui demande de ne pas le toucher et de sortir. Le pompier reste seul alors avec la victime inanimée et couvre le corps avec un linge, ce qui surprendra le père. Les gendarmes sont alertés. Ils débarquent rapidement dans la maison de Saint-Germain-la-Campagne. Bonsoir Julien Lagarde.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être en ligne ce soir dans l'heure du crime. Vous êtes journaliste au journal Le Pays d'Auge et vous avez suivi toute cette affaire. J'ai envie de vous poser une question très simple. On est là dans un environnement qui est assez tranquille, ce petit village près d'Orbec. Il se passe pas grand-chose, tout le monde se connaît. Qui est la victime, Gaëlle Fossé?
Alors Gaëlle Fossé, c'est une jeune femme qui est originaire de d'Orbec, comme on l'a dit, qui était donc une commune qui est située à quelques kilomètres de Saint-Germain-la-Campagne. C'est une jeune femme de la région, ce qui a forcément provoqué une émotion un peu plus forte, puisque c'est quelqu'un qui a vécu à Orbec, qui avait des amis, tous ses amis étaient dans la région. Quelqu'un qui était connu pour être très sociable, qui avait beaucoup d'amis. C'était une jolie jeune femme aussi, qui attirait les regards. Et c'était surtout une jeune femme sans histoire, qui a pu surprendre quand on a appris ce qui s'était passé.
Une femme tranquille qui n'a pas, on peut le dire, d'ennemis déclarés, de personnes, elle n'a pas de litige avec qui que ce soit à cette époque.
A priori, non. On ne lui connaît pas d'ennemis. Et en dehors d'une dispute justement avec une amie qui fera partie de l'enquête la veille, on ne lui connaît pas d'ennemis qui pourraient lui en vouloir au point de faire ce qui s'est passé.
Une jeune femme tranquille. Donc, et on retrouve là Sylvie Fossé. Bonsoir Sylvie Fossé.
Bonjour Jean-Alphonse.
Merci beaucoup d'avoir accepté ce soir l'invitation de l'heure du crime. Je vais vous poser la même question qu'à Julien Lagarde. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de votre fille? Qui était-elle?
C'est les paroles d'une maman. Hein. Donc, elle était très jolie, coquette, avec un caractère certain par contre. Hein. Quand elle avait décidé d'avoir quelque chose, de faire quelque chose, elle faisait tout pour y arriver. Elle était vraiment très tenace, mais sinon elle était douce, elle était rigolote, très 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 bavarde, et elle était vivante.
Elle était vivante, vous le disiez évidemment. Sylvie Fossé, il n'y a pas d'effraction chez votre fille dans cette maison. De toute évidence, Gaëlle a ouvert à quelqu'un qu'elle connaissait. C'est ce que vous pensez depuis le début?
Oui, on est vraiment parti sur cette hypothèse-là parce que elle était quand même assez prudente. Elle ouvrait vraiment qu'à des amis qu'elle aimait, quoi, et qu'elle voyait assez souvent. Et je lui disais toujours, tu n'ouvres à personne, tu fermes bien ta porte à clé, sans arrêt. Donc elle était vraiment très méfiante. C'est pour ça qu'on se dit, ça peut être que des gens qu'elle peut connaître, quoi. Moi, je n'imagine pas boire un verre avec n'importe qui, quoi.
Vous ne l'imaginez pas. Adrien Cadorel, bonsoir. Merci beaucoup d'être ce soir dans l'heure du crime et dans le studio de l'heure du crime. Vous êtes journaliste police-justice à M6 et producteur adjoint de cette émission dont j'ai rapidement parlé en introduction de l'émission, émission Appel à témoins. On va en reparler de cette émission à la fin de l'heure du crime et dire ce que vous allez pouvoir apporter, en tout cas les témoignages que vous souhaitez recueillir, notamment dans cette histoire Gaëlle Fossé que vous avez suivie. Adrien Cadorel, qu'est-ce qu'elle raconte cette scène de crime? On est surpris par l'acharnement, ces coups répétés, 66 coups de couteau.
Effectivement, vous l'avez dit, alors c'est ce qu'expliquait également Julien tout à l'heure, c'est que la scène de crime, elle tranche véritablement avec la personnalité de Gaëlle, qui était une jeune femme extrêmement vivante, aimée de tous, et de l'aveu même de l'ensemble des enquêteurs qui ont franchi la porte de cette résidence ce soir d'avril 2007. Effectivement, ils en gardent d'effroi et d'un déchaînement de violence sur la personne de Gaëlle, bien évidemment. Oui.
Alors, il y a le chien aussi est enfermé, ce Rottweiler qui est baptisé Rambo, qui est un chien d'attaque, hein, qui défend ses maîtres. Il est enfermé, ça, c'est pas normal.
Alors, beaucoup de témoignages diront qu'effectivement, Rambo, qui est, je viens de le préciser tout à l'heure, un Rottweiler d'une trentaine de kilos, hein, on parle d'un gros chien, est enfermé dans le cagibi qui donne sur la porte d'entrée. Et effectivement, ce n'est pas du tout une habitude qu'avait Gaëlle, en tout cas quand elle était seule chez elle. Et c'est un des éléments qui va intriguer les enquêteurs sur le fait qu'il sera en plus resté enfermé un certain nombre d'heures et sans manifestement attirer l'attention du voisinage.
C'est ça, et pourtant il a aboyé.
Il a aboyé pendant plus de 24 heures parce qu'effectivement, entre le moment où la commission des faits, ou le moment où les gendarmes finiront par rentrer dans la maison, il va s'écouler pas loin de 24 heures.
Et on le rappelle, c'est un petit village avec des maisons qui sont pas loin les unes de les autres, où tout le monde se connaît.
Tout à fait.
C'est dans le décor de ce crime, il faut tout de même le souligner. Julien Lagarde, comme cela, la scène que nous décrivons avec Adrien Cadorel, c'est une scène qui ressemble beaucoup à une agression sexuelle, on peut le dire comme ça.
Il y a peut-être une nature sexuelle derrière le déchaînement de violence, c'est-à-dire peut-être qu'il y a une frustration, mais il y a pas eu de...
Il n'y a pas eu de viol, c'est ça.
Il
n'y
a pas eu de viol, voilà. Ça, c'est confirmé. Mais c'est vrai que 66 coups de couteau, on sent que derrière, la personne qui a fait ça était certainement extrêmement frustrée. Est-ce qu'elle a essuyé un refus de la part de Gaëlle ? C'est assez probable.
Oui, en tout cas, il y a peut-être une histoire de jalousie, effectivement, ou de frustration, comme vous le dites. Hein. C'est un petit peu ce qui ressort de cette scène, a priori.
Puisque le premier coup est mortel, à quoi servent les autres, quoi ? C'est-à-dire Exactement. Que derrière, il y a un déchaînement gratuit qui est lié à quelqu'un qui ne se maîtrise plus, certainement lié à une frustration.
L'enquête démarre, les gendarmes partent à la chasse aux indices sur la scène de crime. Ils vont aussi se lancer dans une course intense aux auditions. Gaëlle a été tuée dans un petit village où tout se voit et où tout se sait. Les investigations devraient donc être rapides. Les enquêteurs savent que Gaëlle, dont le corps a été retrouvé chez elle le vendredi 27 avril, a été tuée la veille, jeudi 26 avril, sans doute en fin de soirée. Elle avait eu auparavant en ligne son fiancé Steven, avant que son portable ne réponde plus. Gaëlle était d'un naturel méfiant et n'aurait jamais ouvert la porte à un inconnu. Elle était probablement à l'étage, en train de regarder la télé. La lumière de cette chambre était restée éclairée quand elle a eu de la visite. Apparemment, elle a partagé quelques verres avec son visiteur du soir. Elle avait 0,81 g d'alcool dans le sang. Des verres ont été saisis dans le salon. Les gendarmes notent que les lieux, le couloir et une partie du fameux salon ont été nettoyés avec un produit de ménage, de l'assouplissant pour le linge, une bouteille trouvée sur place. Nettoyage qui a probablement effacé des traces et des indices en allumant la lumière chez sa fille. Son père avait immédiatement noté que le sol du couloir était humide et il avait distingué des traces de pas. L'arme du crime est un couteau effilé, une arme blanche qui demeure introuvable. En partant, l'assassin a emporté les trousseaux de clés du couple et il a pris soin de refermer la porte derrière lui. En attendant les relevés d'empreintes et les expertises ADN, les gendarmes procèdent à des auditions en ciblant en priorité l'entourage de la victime. Steven, le compagnon, effondré après la mort de Gaëlle, est très rapidement mis hors de cause. La nuit du meurtre, il se trouvait à 700 km de là, à Saint-Étienne, dans la Loire. Pour son travail, cet installateur de meubles de supermarché n'était donc pas en Normandie ce soir-là. Les gendarmes s'intéressent aussi à Johan, le pompier volontaire de la région d'Orbec, croisé devant la maison du crime par le père de la victime. Jean-Paul Fossé avait trouvé son comportement troublant lors de la découverte du corps. Deux jours avant le meurtre, il aurait rendu visite à Gaëlle. Johan, un garçon gentil, serviable et dévoué, selon Steven, le compagnon, Johan, est interrogé. Mais cette piste ne donne rien, ce témoin est relâché. Il sera, quelques années plus tard, placé à nouveau en garde à vue par les gendarmes de la section de recherche de Rouen, mais sans résultat. Le 4 mai, c'est au tour d'une amie proche de Gaëlle Fossé d'être interrogée une première fois. Elle se serait disputée avec sa copine avant le crime, après lui avoir déclaré qu'elle voulait coucher avec son copain. Le 29 mai, la jeune femme est placée en garde à vue. Elle reconnaît être passée chez Gaëlle le mercredi soir, soit la veille du meurtre, mais aucune charge n'est retenue contre ce témoin. Elle est relâchée. Julien Lagarde, en ligne ce soir dans l'heure du crime, journaliste au journal Le Pays d'Auge, et vous connaissez parfaitement cette affaire, vous l'avez suivie de A à Z et vous continuez à la suivre. Là, je viens de brièvement esquisser les premières auditions et les gardes à vue. On peut le dire, Julien, les gendarmes procèdent vraiment à des dizaines d'auditions, ça ne s'arrête pas à ce moment-là, les rendez-vous à la gendarmerie.
Ah oui, oui, tout à fait. Alors le début de l'enquête a été beaucoup critiqué parce que on peut dire que toutes les précautions n'ont pas été prises pour on va dire préserver la scène de crime.
C'est-à-dire il y avait trop de monde sur place, c'est ça?
Ah ouais, c'est ça. Jean-Paul Fossé parle de d'aller et venu incessant, dit que la maison était on rentrait dedans comme dans un moulin, enfin voilà, peut-être qu'à ce moment-là des pièces à conviction ont été souillées ou en tout cas permettent pas après de remonter jusqu'à l'auteur des faits. Donc le début de l'enquête est peut-être un peu critiquable, mais après il y a un boulot incroyable qui est fait localement, qui participe aussi à la psychose, puisqu'on voit des gendarmes partout, ils fouillent les poubelles, ils montent sur les toits. Il y a un travail d'investigation dans les premières heures qui est considérable.
Alors, vous parlez de psychose, et effectivement, je crois qu'à cette époque, le maire de la commune, de ce petit village, va réunir la population pour essayer de rassurer sa population, pour leur dire non, il n'y a pas un tueur qui se balade, parce que tout le monde a peur.
C'est ça. Il organise une réunion publique le 7 mai, donc 10 jours après. Il sent que voilà, sa commune, qui est une petite commune de 800 habitants, où il ne se passe pas grand-chose, est devenue une cocotte minute. Mmh. Alors, il organise cette réunion publique, une soixantaine de personnes dans la salle. Alors, le problème, c'est qu'on est dans le cadre d'une enquête criminelle qui vient de démarrer et qui, par définition, est couverte par le secret de l'instruction. Ouais. Donc, il peut pas dire grand-chose. Si ce n'est que dire que les gendarmes travaillent, essayer de rassurer la population. Il y a une association d'aide aux victimes qui est là, qui propose ses services pour un soutien psychologique. L'idée, c'est de refaire descendre un petit peu la tension, parce qu'il sent que là, ça part dans tous les sens.
C'est d'ailleurs, Julien Lagarde, c'est souvent le cas en matière de crimes dans des petits villages, dans des localités assez réduites. Évidemment, il y a une psychose qui s'empare tout de suite de la population. Et c'est parfois très difficile parce qu'elle devient irrationnelle. Encore une question, Julien Lagarde. Vous connaissez, je le disais, parfaitement ce dossier. Johan, le pompier, il va être interrogé deux fois. Ils font une fixation, un petit peu, les gendarmes sur lui, là. Il a eu une attitude qui prête à confusion pendant la découverte du corps, c'est ça ?
Il fait quelque chose qu'on ne doit pas faire, c'est-à-dire qu'il, déjà, il écarte Jean-Paul de la maison, il rentre seul et touche, il déplace le corps, en tout cas, il met un linge par-dessus. On ne sait pas trop pourquoi, ça va citer vraiment de la suspicion chez Jean-Paul. Voilà. Normalement, il n'aurait pas dû y toucher. Mmh. En tant que pompier, a priori, il est censé le savoir. Mais c'est aussi un ami du compagnon. Il peut être aussi pris par un élan d'humanité et empêcher le père d'assister à une telle scène d'horreur.
C'est, je crois, d'ailleurs ce qu'il a expliqué lors de l'enquête aux enquêteurs. Adrien Cadorel, journaliste police-justice à M6, et également ce soir dans l'heure du crime, question très difficile, mais est-ce qu'il y a une ou deux personnes qui sont rentrées ce soir-là chez Gaël ? Parce qu'on a l'impression que ce ménage, c'est un peu un travail de Romain, qu'il y a des enquêteurs qui disent qu'il n'y a peut-être pas une seule personne.
C'est toute la question, Jean-François. C'est toute la question, effectivement, de se dire que, comme l'expliquait Julien, il y a deux pistes qui sont principalement, on va dire, investiguées par les gendarmes les premières heures. Il y a effectivement Johan, le pompier, qui, de par son attitude, comme vous l'avez dit, trouble un petit peu tout le monde. Et puis, il y a également un voisin, connu pour être aussi un ami du couple, mais aussi une connaissance de ce pompier, qui très rapidement, dans le premier temps de l'enquête, va troubler un petit peu tout le monde par ses déclarations, par ses dénégations, par ses mensonges. Et effectivement, dans la tête de certains enquêteurs de l'époque, mais peut-être encore aujourd'hui, certains vont aussi se poser la question de savoir si une, mais peut-être deux personnes ont pu être présentes ce soir-là, parce qu'effectivement, vous le dites, la façon dont la scène de crime est nettoyée avec cet assouplissant d'une façon très très étonnante, on n'a pas l'habitude de voir ça, laisse l'impression que c'est du travail d'amateur, mais qu'en tout cas donne l'impression pour les enquêteurs qu'il y a eu plusieurs allées et venues entre l'extérieur et l'intérieur de cette maison.
6 mois vont ainsi s'écouler avant qu'un suspect, cette fois, retienne vraiment l'attention des gendarmes. C'est un ami du couple, il leur rendait de fréquentes visites, une trace ADN le désigne. 4 empreintes ADN ont pu être prélevées sur le pantalon de jogging de la victime, un vêtement qu'elle utilise pour dormir, le sien, celui de son compagnon Steven, et 2 autres ADN inconnus dont l'identification va prendre davantage de temps. Un premier résultat désigne un voisin et ami du couple. Il habite à seulement 2 maisons du lieu du crime. Il avait été entendu comme témoin par les enquêteurs 6 mois après le meurtre. Le 6 octobre 2007, Grégory E., 22 ans, est interpellé et placé en garde à vue. Lors de ses premières déclarations, il indique tout bonnement ne pas connaître Gaël Fossé. Les gendarmes ne sont pas convaincus par ses propos. Grégory E., originaire d'Orbec, a fréquenté la même école que Gaël Fossé, de la maternelle jusqu'au CM2. Mais surtout, cet homme est un ami du compagnon de la jeune femme. Il se rend souvent chez le couple pour jouer à la PlayStation. Les choses se corsent pour Grégory E., qui ne peut pas fournir d'alibi pour le soir du meurtre. En outre, alors qu'il était en période d'essai dans une entreprise, il ne s'est pas rendu à son travail le lendemain du crime. Un témoin retrouvé par les gendarmes affirme avoir vu l'individu à deux reprises le vendredi 27 avril devant la maison de Gaël. À la troisième audition, Grégory E. reconnaît qu'il connaît le couple mais nie avoir tué la jeune femme. Le 8 octobre, il est mis en examen pour assassinat et écroué. Grégory E., qui n'a cessé de démentir toute implication dans le crime, va rester 19 mois en détention provisoire. Il va être relâché, faute d'éléments confondants, et placé sous contrôle judiciaire. Son ADN est sur le pantalon de Gaël, mais pour son avocat, maître Philippe Lagarde, il s'agit d'un ADN de contact. Le jeune homme étant souvent chez le couple pour jouer à la console, boire un verre ou fumer un joint. « Mon client n'avait aucune raison de vouloir tuer cette jeune femme », ajoute l'avocat qu'il présente son client comme quelqu'un ayant fait certes des déclarations maladroites, mais ces déclarations ne justifieraient en aucun cas un séjour en prison. La libération de Grégory E. est un coup dur pour les parents de Gaël, persuadés que le jeune homme était impliqué dans la mort de leur fille. L'ADN ne suffit pas à établir la vérité, d'autant plus que la quatrième trace qui restait inconnue est donc susceptible de faire rebondir le dossier. Cette trace va s'avérer décevante. Il s'agit de l'ADN d'un employé des pompes funèbres de Bernay qui avait manipulé le corps. Julien Lagarde, journaliste au journal Le Pays d'Auge, on vous retrouve dans l'heure du crime. Alors on s'arrête tout de suite sur cette piste qui est une piste très importante dans ce dossier, qui va l'animer pendant des semaines, des mois et des années. C'est la piste Grégory E. En quelques mots, qui est ce garçon ?
Alors, c'est un jeune homme d'Orbec qui est de la même génération que Gaël. C'est un ami du compagnon de Gaël. C'est un jeune un peu paumé. C'est pas la meilleure période de sa vie à ce moment-là. C'est un fêtard. Il travaille, ça c'est sûr, mais c'est pas le genre idéal, on va dire, à ce moment-là. Quand il est interpellé, il se trouve qu'il est déjà en détention.
Oui, c'est ça. Et je ne l'ai pas dit dans le récit, mais il a un passé judiciaire. Expliquez-nous, Julien Lagarde.
C'est ça, tout à fait. Alors, il a un passé judiciaire, pour des petits délits, évidemment, mais quand il est interpellé, il est déjà en détention. Il était condamné à 4 mois de prison ferme pour une agression sexuelle commise sur une adolescente qu'il savait seule. Donc, il est entré par effraction au domicile de cette adolescente. Il lui a imposé des caresses et après, il s'est endormi dans le lit tellement qu'il était ivre. Et il est parti le lendemain comme si de rien n'était. Et je me souviens qu'au procès, qui était devant le tribunal de Lisieux, il n'arrivait pas à prendre conscience de la gravité des faits.
C'est ça. Et alors, ça pèse lourd dans le dossier. Parce que c'est une attitude, rentrer chez quelqu'un, etc.
Ça, on peut faire un parallèle avec ce qui s'est passé chez Gaël Fossé. Et les enquêteurs le font très rapidement.
On retrouve Sylvie Fossé dans l'heure du crime, la maman de Gaël Fossé. Sylvie Fossé, alors à ce moment de l'enquête, on vient d'en parler avec Julien Lagarde, les gendarmes pensent que votre fille a ouvert la porte à ce fameux Grégory. Vous, je crois, vous êtes davantage circonspecte.
Avec mon mari, on a du mal à s'imaginer, du fait qu'elle nous parlait de lui de façon négative, qu'elle ait pu lui ouvrir et boire un verre avec. Les gendarmes nous disent, mais oui, mais exceptionnellement, est-ce qu'elle aurait pu le faire pour X raisons ? Peut-être, on peut être sûr de rien.
Alors, Madame Fossé, tout de même, vous pensez quoi ? Vous pensez que cet homme pourrait être impliqué dans le crime de votre fille ?
Bon, il y a quand même beaucoup de faisceaux de preuves contre lui, parce qu'il a dit qu'il ne connaissait pas ni Steven ni Gaël, il ne leur parlait pas, après il les connaissait, mais c'était vraiment des connaissances de loin. En fin de compte, ils ont découvert qu'il avait été à l'école avec Gaël. Il a eu un comportement avec les femmes très particulier, puisqu'il a été jugé pour agression sexuelle. Et puis, un ressenti, parce que une fois, je l'ai rencontré, il m'a regardé, j'ai fermé la porte, j'étais voir mon mari, je lui ai dit, mais c'est lui, je suis sûre. Alors, le ressenti, ça ne fait pas une preuve. Et nous, il faut, enfin, pour aller à un procès, il faut qu'il y ait une preuve, quoi.
Oui, il faut effectivement une preuve pour que cette affaire tienne et pour qu'on arrive à trouver un coupable. La preuve, elle est peut-être à travers les ADN. Adrien Codroel, il y a une tache de sperme sur le jogging de la victime, mais on ne sait pas vraiment à qui elle appartient. C'est assez flou, cette histoire d'ADN, parce que c'est très embrouillé.
Effectivement, c'est-à-dire qu'il faut le remettre dans le contexte. Au moment des faits, 2007, l'ADN n'est pas totalement encore la reine des preuves, et effectivement, c'est une avancée importante. On arrive à identifier un ADN de ce voisin, Grégory E., mais en utilisant toutes les voies légales, une démonstration qui a été importante à l'époque, son avocat a effectivement pu démontrer que Grégory E. venait lui-même très souvent à la maison et que l'ADN pouvait être non pas un ADN véritablement qui prouvait quoi que ce soit, mais qui peut être un ADN simplement de transfert qui montrait que, d'une manière ou d'une autre, elle avait pu peut-être qu'elle s'asseoir sur un siège, sur un fauteuil ou sur un canapé où lui-même s'était assis auparavant. Et en réalité, ça ne suffisait pas de manière, en tout cas, probante pour le maintenir en détention. Il est resté mis en examen, mais cet ADN, c'était le seul petit élément que les enquêteurs disposaient à ce moment-là, de manière probante. Et c'était en tout cas pas suffisant pour le maintenir en détention.
On ne trouve de l'ADN que sur le pantalon de jogging de Gaël.
Oui.
On n'en trouve pas ailleurs.
Alors, il y a des expertises qui sont menées pour l'instant, encore aujourd'hui, mais au moment des faits...
Avec de nouvelles techniques, je suppose.
Avec des nouvelles techniques, effectivement. Mais au moment des faits, et vous en parliez tout à l'heure, effectivement, ce qui est très surprenant dans cette façon de, on va dire, de nettoyer cette scène de crime avec cet adoucissant, ça a été finalement pas si mal fait que ça, parce que beaucoup de traces ont disparu. Ceci dit, il faut se remettre dans l'époque, on est en 2007 et on n'a réussi pas nécessairement à ce moment-là à identifier toutes les traces ADN. La science a fait des progrès. 14 ans au terme de police technique et scientifique, c'est un monde. Et aujourd'hui, certains éléments, en tout cas, revus avec les techniques d'aujourd'hui, peuvent effectivement faire bouger les choses.
Il faut l'espérer. Julien Lagarde, journaliste au journal Le Pays d'Auge, pour la famille, c'est un peu l'ascenseur émotionnel, comme on dit. C'est-à-dire que ce garçon, il est mis en examen, il va en prison, il sort de prison, il est sous contrôle judiciaire, c'est difficile à suivre.
Bien sûr, à ce moment-là, ils sont persuadés que c'est lui et qu'on ira vers un procès aux assises. Le problème, c'est que les charges sont trop légères. On parle de quelqu'un, s'il est condamné, qui part 30 ans en prison.
Bien sûr.
Donc, on peut pas. Le risque d'acquittement à ce moment-là est trop élevé pour pouvoir aller plus loin. Alors, eux, effectivement, ils le vivent très très mal. De toute façon, toute cette affaire ce dossier a été très compliqué pour eux. Il y a eu plein de rebondissements avec aussi la réforme de la carte judiciaire, la fermeture du tribunal.
Qui a compliqué tout ça, bien sûr.
Et oui, le dossier est transféré à Évreux. Bon, apparemment, pas dans un état parfait. Donc, il y a eu beaucoup de juges qui se sont succédés. Donc, ils ont eu beaucoup de coups de massue au cours de ces 14 dernières années, on peut le dire.
L'affaire, après la libération de Grégory E., le dossier va s'enliser, l'enquête va se promener de juge en juge sans apporter le moindre rebondissement ou un élément nouveau. Les parents vont avoir le sentiment d'être abandonnés. Le samedi 26 avril 2014, date anniversaire de la mort de Gaël, tué de 66 coups de couteau, les parents organisent une marche blanche dans leur village, à Orbec. Depuis toutes ces années, Jean-Paul et Sylvie Fossé, mais aussi le frère de la victime, Jean-Charles, vivent dans le souvenir de la disparue. À cette époque, 6 juges d'instruction entre Bernay et Évreux se sont déjà succédés dans le dossier. Nous avons longtemps fait confiance à la justice, mais là, ras-le-bol, depuis 3 ans, rien ne bouge. Que font les enquêteurs, ont-ils interrogé les bonnes personnes? On ne peut quand même pas massacrer quelqu'un en toute impunité, s'exclament exaspérés les parents. Des parents perdus qui créent une page Facebook et lancent une pétition sur les réseaux sociaux. Sylvie Fossé adresse même une lettre à l'assassin inconnu de sa fille. En assassinant Gaël, vous nous avez détruits. Tout ça, pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce que Gaël vous avait fait? Au journal Paris Normandie, elle explique « Je crains que le dossier ne soit clôturé faute d'éléments probants. C'est pour cela que j'ai écrit cette lettre de colère. »
Une mobilisation qui permet de réveiller le dossier. La juge d'Evreux, qui reprend l'affaire, multiplie en ces années 2016-2017 les actes d'instruction. Des témoins sont réentendus. Grégory E., le principal suspect, âgé alors de 31 ans, est placé sous contrôle judiciaire, est à nouveau interrogé. Le pyjama de la victime, principale pièce à conviction sur laquelle ont été prélevés des ADN, est une nouvelle fois analysé en utilisant des techniques nouvelles. Ce vêtement, conservé en mauvais état, semble de plus en plus délicat à exploiter. Un nouvel ADN partiel est toutefois isolé, mais ne va pas permettre de faire avancer le dossier. En 2018, la juge ordonne encore une série d'auditions, de quoi redonner un peu d'espoir à ses proches qui ont souvent pensé qu'ils étaient oubliés. La procureure d'Evreux, Dominique Puechmaille, s'interdit alors de commenter les investigations en cours. Elle assure simplement que le dossier Gaël Fossé n'est pas du tout refermé. Julien Lagarde, journaliste au journal Le Pays d'Auge et qui suit cette affaire depuis le début. On arrive dans les années où l'enquête paraît impossible, mais une enquête qui continue est de grande ampleur. J'ai lu dans les journaux et notamment dans vos articles 600 personnes entendues, c'est bien ça ?
Oui, c'est ça. C'est ça. Il y a eu 1800 PV d'audition, plus de 500 personnes, hein, exactement entendues. C'est un boulot tentaculaire.
Parce que 600 personnes, ça veut dire que c'est la région, hein, qui est concernée. C'est bien au-delà du petit village en question.
C'est ça. Alors, ils ont fonctionné par étapes avec le premier cercle. Donc, vraiment, les amis proches et la famille de Gaël. Le deuxième cercle, avec des gens un peu moins proches, on va dire, et donc collègues de travail et compagnie. Et puis le troisième cercle, qui sont des gens qui sont plus éloignés de la victime. Mmh. Donc ils ont vraiment ratissé large. Et je sais que encore aujourd'hui, ils travaillent tous les jours dessus, quoi.
Oui, on continue à chercher, hein.
Ah oui,
le dossier, comme dit la, voilà, exactement, comme le dit la procureure d'Evreux, le dossier n'est pas refermé, hein. Vous confirmez cela. Et question, alors là aussi, question impossible, mais il y a que des questions impossibles dans l'heure du crime. Ouais. Julien Lagarde, pourquoi on ne trouve rien ? Pourquoi on ne trouve rien ? Comment ça se fait ? C'est l'intelligence criminelle, si je puis dire, des personnes, de la personne ou des personnes qui ont nettoyé la scène de crime. De la malchance. Comment vous pouvez expliquer ça ?
Il y a ce fameux début d'enquête qui est tant décrié. Mmh. On sait que les premières minutes de la découverte d'un corps sont déterminantes. Là, manifestement, tout n'a pas été fait dans les règles. Il n'y a pas d'aveu aussi. Mm-hmm. De rien, des aveux, c'est important.
Bien sûr.
Et des témoignages.
Et des témoignages.
Voilà, et ce sera tout l'intérêt de l'émission de lundi soir.
Tout à fait.
Les langues se délient enfin. Mm-hmm. C'est impossible que personne ne sache quelque chose, quoi.
Oui, enfin, c'est quelque chose, c'est un cri qui revient chez les parents. Impossible que personne n'ait rien vu. Et quand on connaît ce que vous nous avez expliqué, la topographie de ces lieux, ces petits villages, on est dans la campagne, normalement, les gens finissent par parler. Ça finit par causer.
Alors, vu ou entendu, parce qu'en fait, c'est un petit lotissement, hein, dans lequel elle habitait, où les maisons sont... on n'est pas en race campagne, quoi. C'est-à-dire que les maisons sont collées, certaines sont même mitoyennes. Bon, on a dit que les murs étaient un petit peu épais comme du papier à cigarette, donc on entend tout.
Fatalement.
Impossible que personne n'a rien entendu.
Et Sylvie Fossé, justement, je rebondis là sur ce dont on parle. Avec votre mari, je crois que vous avez deux certitudes, finalement, sur la mort de votre fille. L'assassin fait partie de son entourage. Et puis, deuxième certitude, c'est que quelqu'un dans la région sait quelque chose. C'est bien ça ?
Tout à fait. Je suis persuadée parce qu'il y avait tellement un cercle de personnes autour de Gaël et Steven. Beaucoup d'amis, pas amis non plus, mais enfin des connaissances et tout. On est persuadé que quelqu'un sait quelque chose, sans en avoir conscience peut-être, un détail ou quelque chose comme ça. Mais tous les deux, on en est persuadés. Même les enquêteurs nous ont dit que c'est quand même dans le cercle d'amis de Gaël et de Steven, quoi. Donc ça, on en est persuadé. Hein.
Adrien Cazorel, vous confirmez ce que dit la maman de Gaël, c'est-à-dire que effectivement c'est dans un cercle très réduit que sans doute se trouve l'assassin, dans ce cercle peut-être d'amis, de connaissances.
Effectivement, je crois que Sylvie Fossé et Julien et Lagarde ont effectivement un peu tout brossé le portrait. C'est effectivement dans un cercle très restreint de personnes que se joue l'élucidation de ce meurtre. Il y a une certitude chez les enquêteurs qui se sont succédés, c'est que cette affaire met du temps, par rapport à la question que vous posiez tout à l'heure, peut-être à sortir, comme on dit en langage judiciaire, parce que peut-être des gens se tiennent entre eux sur des témoignages, et peut-être que certaines personnes sont au courant de ce qui s'est passé, et c'est une histoire de poker menteur, de dire peut-être moi je sais ce que t'as fait, mais t'étais alors peut-être ça, pas seul. C'est important
aussi. C'est important et c'est très intéressant ce que vous dites, parce qu'en fait c'est tout simplement une forme d'omerta. Hein.
Alors oui.
On se tient parce que je sais, tu sais, etc.
Il y a ce que décrivait Julien tout à l'heure par rapport effectivement à Saint-Germain-la-Campagne, mais il faut imaginez qu'à Orbeck, on est aussi effectivement dans une atmosphère qui est presque chabrolienne, si j'ose dire, où effectivement tous les gens se connaissent et les gens qui ont été mis en cause, les gens qui ont souffert de cette affaire, se croisent tous les jours quand ils vont acheter le pain. Donc il y a une espèce de défiance qui est permanente, certains en ont souffert et certes, ça a pu surtout, en tout cas, convaincre certaines personnes de se taire, de ne rien dire, mais en tout cas, les enquêteurs ont, et la justice également, une certitude, c'est qu'un certain nombre de personnes sont au courant de ce qui a pu se passer.
Comment donc relancer cette affaire si ce n'est grâce à un témoignage? Seule chance pour les enquêteurs de mettre enfin un nom et un visage sur l'assassin. Au fil des années, les enquêteurs n'ont pas trouvé la clé de l'assassinat de Gaël Fossé. Le suspect numéro 1 a été libéré, les autres témoins importants n'ont jamais été confondus. Pas moins de 600 personnes ont été entendues, largement donc au-delà du cercle des connaissances de Gaël Fossé et de son compagnon, Steven. Les gendarmes restent convaincus que c'est pourtant dans cet environnement proche que se cache le meurtrier de la jeune femme, un homme suffisamment déterminé pour l'avoir attaqué par surprise dans le salon, puis s'être acharné sur elle avec une rare férocité, un acte de colère intense ou de jalousie profonde. Le chef de la section de recherche de la gendarmerie de Rouen, le lieutenant-colonel Thierry Jourdain, est persuadé qu'un témoignage inédit pourrait faire rebondir l'affaire. Il se peut que des voisins aient omis de nous faire part d'un point de détail, mais qui, mis bout à bout, peut amener à débloquer une situation, dit-il. Le père de Gaël émet également le vœu que ce mur du silence s'écroule. J'espère que certains auront le courage de parler. Les parents de Gaël, Jean-Paul et Sylvie Fossé, son frère Jean-Charles, son ancien compagnon Steven, attendent donc ce signe qui pourrait les aider à faire un deuil jusqu'à ce jour impossible. Il faut qu'on arrive à savoir qui a fait ça, pourquoi ça a été fait comme ça, explique Steven. Il y a des gens qui savent, c'est sûr, alors parler, demande Steven. Julien Lagarde, journaliste au journal Le Pays d'Auge. Est-ce que les langues commencent à se délier? Est-ce que l'enquête se poursuit? Est-ce que l'enquête avance?
Alors l'enquête se poursuit, ça c'est sûr et certain, notamment dans le domaine de la police scientifique, puisqu'ils veulent, ils sont déterminés à refaire des analyses sur des pièces à conviction qui à l'époque n'étaient pas exploitables. Mmh. Donc ça continue. Il y a deux unités qui sont mobilisées sur cette affaire. Il y a la section de recherche de Rouen qui est côté gendarmerie. Et il y a aussi l'Office central pour la répression des violences aux personnes qui est côté police, qui ont repris le dossier aussi, qui ont mis le dossier à plat. Aujourd'hui, on peut pas dire que la justice ne met pas les moyens qu'il faut pour essayer de retrouver l'assassin de Gaël.
Oui, objectivement, ça fait beaucoup de monde, le dispositif que vous décrivez, parce que des années après, c'est rare qu'on ait encore autant de monde sur une enquête.
C'est parce qu'il y a beaucoup de travail, malheureusement. Oui. Il y a trop de portes qui ne sont pas fermées. Et du coup, il nécessite de réinterroger des gens, de refaire des analyses avec
bien sûr. Et Julien Lagarde, il y a quand même un gros espoir qui est placé sur l'ADN. Hein. Effectivement, c'est un peu la tarte à la crème ce que je dis là, mais effectivement, il y a de telles avancées quasiment quotidiennes dans ce domaine que il y a beaucoup d'espoir placé là-dessus.
C'est ça. L'idée, c'est d'essayer d'extraire un ADN qui n'aurait pas été révélé jusque-là. Donc, Donc, faut espérer que
ça marche, bien sûr. Mais ça veut dire aussi, Julien Lagarde, que tous les éléments qui ont été collectés sur la scène de crime, ils vont être repassés au crible, je veux dire. Ils vont retourner au labo.
Ouais, certain, en tout cas. Ouais. Qui était inexploitable à l'époque et peut-être aujourd'hui. Et puis, en sachant que l'arme du crime n'a jamais été retrouvée, je ne sais pas si on l'a précisé.
Je l'ai dit, mais vous pouvez le redire, effectivement. C'est un couteau, c'est ça? Ça a été identifié clairement?
C'est un couteau. Alors, Steven disait que... Enfin, le compagnon de Gaël disait qu'il en manquait un. Donc, a priori, le couteau aurait été pris sur place. Mais il n'a jamais été retrouvé. Et pourtant, il a été intensément recherché. Je vous ai dit, il avait balayé toute la campagne autour. Cette arme ne sera jamais retrouvée, ça c'est certain. Mmh. Et il y a encore des pistes à explorer au niveau de l'ADN et les aveux et les témoignages. Voilà, il y a encore des portes à ouvrir.
Il y a encore des portes à ouvrir. Et puis encore un petit détail. Vous parlez du couteau, ça c'est important parce que ça veut dire que finalement il y a une espèce de coup de folie qui s'est déclenché. La personne trouve sans doute l'arme sur place. A priori, pas de préméditation. Et puis, elle nettoie avec des produits sur place. Voilà, tout s'est fait un petit peu dans une espèce de vent de folie, on peut dire, meurtrière.
C'est ça, avec des produits, d'ailleurs, qui ne sont pas forcément destinés à faire le ménage.
Le ménage, oui, tout à fait.
C'est ça. Il prend ce qu'il a sous la main.
Ce qu'il y a sous la main. Sylvie Fossé, la maman de Gaël Fossé, on vous retrouve dans l'heure du crime. Alors, on entend très bien ce que dit Julien Lagarde, qui connaît très très bien ce dossier. On a quand même le sentiment que les choses bougent après une si longue immobilité. Vous formez cet espoir? Vous pensez, vous, qu'on s'approche au plus près, désormais, de la vérité?
Oui. Je crois qu'on n'a jamais été aussi près. Alors, bien sûr, on peut toujours avoir... et des contenus comme on en a eu d'habitude, mais là, je pense qu'on s'approche de plus en plus et que les enquêteurs ont beaucoup travaillé, ont refait des choses et là, franchement, on a un grand espoir.
Et grand espoir et espoir évidemment qui repose maintenant quasi exclusivement sur de nouveaux témoignages, comme d'ailleurs dans la plupart des cold cases. Adrien Cadorel, journaliste à M6, vous êtes aussi là pour nous parler de cette émission nouvelle émission que lance lundi prochain M6, ça sera à 21h05, ça s'appelle Appel à témoins, le cas Gaël Fossé va être exposé, vous êtes producteur adjoint de cette nouvelle émission. Alors dites-nous, comment ça va fonctionner là, par exemple, dans le cas Gaël Fossé, on va pouvoir appeler un standard, c'est ça hein, les personnes qui n'oseraient pas témoigner peuvent le faire?
Oui, tout à fait. L'idée, alors à l'origine du projet, il y a Jean-Marie Gouin qui est le producteur de cette émission et qui a formé depuis des années l'idée de tendre la main aux familles des victimes en essayant d'apporter des réponses à des affaires qui étaient restées... pour l'instant, sans réponse. L'idée, c'était de pouvoir, sur des affaires comme celle-ci, lancer des appels à témoins en ayant sur le plateau les familles des victimes, mais également les magistrats et les enquêteurs. D'avoir tout ce monde réuni pour lancer des appels à témoins et de demander aux gens, effectivement, qui auraient pu être dans la région à cette époque-là ou qui, d'une manière ou d'une autre, avaient été sensibilisés par cette affaire ou étaient présents ou savaient quelque chose, de pouvoir appeler, effectivement, sur le plateau. Ce sera des policiers et des gendarmes,
ça,
un standard.
Alors ça, il faut bien le souligner, voilà. Adrien, c'est-à-dire que ce ne sont pas des journalistes ou des standardistes lambda, si je puis dire, qui vont recueillir les appels.
C'est un standard qui sera composé de 4 policiers, 4 gendarmes, qui sont tous des enquêteurs habitués, chevronnés, qui vont récupérer tous les témoignages des gens qui vont appeler. On ne passera évidemment aucun témoignage en direct à l'antenne, on ne va pas diffuser nous-mêmes.
Ça va être filtré.
L'idée étant d'apporter tous ces témoignages aux enquêteurs qui seront présents sur place et qui repartiront le soir de l'émission avec l'ensemble de ces témoignages qu'on n'entendra pas nécessairement nous, qu'on ne pourra pas entendre parce que la justice ne nous le permet pas, en tout cas le code de procédure pénale ne nous le permet pas et ce n'était pas l'idée de l'émission. L'idée c'était vraiment de pouvoir sensibiliser tout le monde et de dire voilà justement si vous avez quelque chose à dire c'est le moment et c'est le cas dans le cadre de l'affaire de Gaël.
C'est l'occasion de créer un électrochoc, en quelque sorte.
Tout à fait.
Encore un petit mot. Il y a d'autres affaires qui sont programmées ce soir-là.
Il y a deux autres affaires ce soir-là. Effectivement, il y a l'affaire de Lucas Tronche.
Qu'on a traité dans l'heure du crime.
Vous avez traité dans l'heure du crime, effectivement. Elle est disparue en 2015 à Bagnols-sur-Cèze. Et le cas de Suzanne Bourlier, une jeune grand-mère qui est disparue, effectivement, en 2015 également. Et cette fois en Sologne.
Alors, ça sera à 21h05.
Tout à fait.
Lundi sur M6. Téléphonez si vous savez quelque quelque chose dans l'affaire Fossé et les autres que vous venez de citer, Adrien Calorel, téléphonez. Je donne déjà le numéro vert qui sera en activité ce soir-là. C'est le 0800 10 11 21. Voilà, on sait très bien qu'en matière criminelle, un témoignage peut tout changer. Merci beaucoup Adrien Cadorel, Julien Lagarde et puis Sylvie Fossé, la maman de Gaël Fossé, d'avoir été ce soir les invités de l'heure du crime avec l'affaire Gaël Fossé. Un témoignage fera-t-il tout basculer et mener au coupable? On ne peut que l'espérer. Merci à Justine Vigneault, Marie Bossard d'avoir préparé cette émission. Marc Bisset était à la réalisation. Un immense merci à vous toutes et tous d'avoir partagé cette heure du crime.